Ebonsoon à tous et à toutes. C'est dimanche 23 et lundi 24 mai, férié, précisons-le. Vous avez rendez-vous avec la foire Biocibel au parc de la Bousquetarié à Groyer, foire organisée par l'association Nature et Progrès Tarn. Moyennant les mesures sanitaires suivantes, port du masque, gel hydroalcoolique disponible, affichage des consignes sanitaires, des espaces élargis sur le parc arboré de 11 hectares, des conférences et animations musicales sous chapiteau couvert, public assis et distancié, des animations enfants dans un espace délimité, un public informé et guidé sur les règles sanitaires du moment, le respect de la jauge en vigueur à ce moment-là, la consommation de boissons et repas dans les espaces avec table distanciée et limitée à 6 adultes et les animations musicales et espaces enfants. Selon conditions du moment, la foire aura bien lieu, ainsi que les conférences donc sous deux chapiteaux distincts animés par Erdotan et Radio Albitzes. Ces conférences ouvertes à la discussion commencent dès ce dimanche à 13h30 avec Aurélien Berlan sous le chapiteau conférences et Jérôme Goust sous le chapiteau forum. On écoute tout de suite deux courtes entrevues réalisées par Erdotan et Albitzes avec ces deux intervenants.
Aurélien Berland, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce week-end à Biocibel, vous allez faire une conférence questionnant l'invitation vers l'autonomie paysanne.
Tout à fait.
Alors, pourquoi une telle proposition ?
Eh bien, parce qu'on constate aujourd'hui de plus en plus, dans la jeunesse et au-delà, un désir d'autonomie. D'autonomie au sens matériel, c'est-à-dire quand on parle d'autonomie énergétique, alimentaire, d'autoconstruction, etc., on désigne l'idée de subvenir à ses propres besoins, de faire les choses par soi-même plutôt que de les faire par des entreprises spécialisées. Et voilà, donc c'est un phénomène assez général, minoritaire mais général, très important dans les milieux écologistes. Et donc j'avais envie d'essayer de creuser la conception implicite de la liberté qu'il y a derrière ce désir d'autonomie.
Alors derrière ce désir d'autonomie arrivent des questions donc de paysannerie, de temps, de travail, divers sujets finalement.
C'est ça. C'est un thème très vaste, puisque en fait derrière cette idée de subvenir à ses propres besoins, il y a l'idée d'assurer sa subsistance. Or ça, c'est le propre de la paysannerie. Donc on pourrait dire que c'est un concept paysan de liberté. Mais le paradoxe et tout l'intérêt de la chose, c'est que la liberté en réalité n'a jamais été associée à la paysannerie ni au monde rural. La liberté, ça a toujours été associé à la ville, à la modernité, à la consommation, à la bourgeoisie. Et donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'on se sépare d'une certaine idée de la liberté qui a été marquée dans le dicton « l'ère de la ville rend libre » et on se tourne vers une nouvelle idée de la liberté, une idée rurale, paysanne, qu'on pourrait résumer par l'expression « prendre la clé des champs ».
Alors vous, personnellement, pour parler de ces questions-là, où est-ce que vous trouvez votre inspiration dans de la théorie, dans quel domaine, dans de la pratique ?
Alors ben moi j'ai fait des études de philosophie très poussées puisque je suis docteur et habilité à diriger des recherches, mais je n'ai pas souhaité consacrer à la carrière à laquelle j'étais prédestiné par mes études, donc la carrière d'enseignant-chercheur. J'enseigne, mais à titre de vacataire, pas à titre de titulaire, donc pas de manière constante. Et moi, il y a 15 ans, je me suis, si j'ai fait ce choix, c'est aussi parce que j'étais en désir d'autonomie, compte tenu de ce que je comprenais de la situation écologique, économique et sociale de mon pays. Et donc, je me suis installé à la campagne, dans le Tarn, pour renouer avec des pratiques plus autonomes, plus économes, plus écologiques aussi, où au lieu de déléguer toutes les choses dont j'ai besoin au quotidien, les déléguer à des entreprises dans des conditions où on sait que à l'autre bout de la chaîne, eh bien, il y a des gens exploités, il y a des dégradations et de la déprédation écologique, etc. J'ai décidé de reprendre en main une partie de mes besoins quotidiens. Et donc, c'est le point de vue dont je parle. Et donc, bah, pendant des années. J'ai rencontré plein de gens qui étaient dans la même démarche. J'ai pu faire des entretiens, des discussions, avoir des réflexions. Et puis, sur la base de mes connaissances en philosophie, en sciences politiques, en sociologie, en anthropologie, j'ai vu tous les liens qui se tissaient entre les pratiques que nous avions aujourd'hui et des aspirations plus fondamentales et des conceptions plus théoriques.
Alors, autonomie paysanne, c'est quand même assez différent de l'autarcie.
Tout à fait, c'est une conception. Quand on pense autonomie aujourd'hui, on pense à se débrouiller tout seul. Très souvent, c'est ça que, qui est quand les pouvoirs publics notamment utilisent cette notion, il y a cette idée-là. Mais en fait, assurer sa subsistance, subvenir à ses propres besoins, c'est impossible tout seul. C'est toujours, ça implique toujours un minimum de collaboration, au moins à l'échelle domestique et vicinale, c'est-à-dire à l'échelle du voisinage ou du village, et même au-delà. Donc en fait, cette autonomie écologique et sociale, elle est sociale justement, elle ne peut se baser que sur la collaboration avec d'autres personnes, de l'entraide, des coups de main, etc. Ce qu'on voit dans le monde des gens, par exemple, de l'autoconstruction aujourd'hui, donc des gens qui construisent eux-mêmes leur habitat plutôt que de le faire construire par d'autres, et ben ça fonctionne beaucoup sur la base de chantiers collectifs, de chantiers collaboratifs, de processus castor, c'est-à-dire où différentes personnes construisent leur habitat séparément, mais se donnent des coups de main régulièrement, plutôt que de chacun faire tout seul sa maison. Et ben le lundi, on travaille chez André, le mardi, on travaille chez Patrick, le mercredi, on travaille chez Claire, et le jeudi, chez Ludivine. Voilà.
Merci à vous.
À dimanche, au revoir.
Jérôme Auguste, bonjour.
Bonjour.
Alors Jérôme, vous serez présent au chapiteau au forum de Biocybelle au parc de la Bousquetariée ce dimanche 23 mai à 13h30 avec une conférence intitulée « L'élevage paysan et le dérèglement climatique », un titre sans point d'interrogation ni point d'exclamation, de sorte qu'on peut se questionner sur le lien que vous faites entre l'élevage et ce dérèglement climatique. Peut-être la nuance vient-elle du mot « paysan » ?
La nuance vient effectivement du mot paysan, mais l'absence de point d'interrogation, de point d'exclamation vient de l'accusation portée sur l'ensemble de l'élevage à l'heure actuelle d'être un des principaux responsables du réchauffement climatique et donc du dérèglement climatique.
Et du coup, vous situez cette conférence donc dans son temps, autant des débats sur la souffrance animale, autour du véganisme. Comment vous avez vu évoluer ce débat ?
Le débat et l'analyse portée, c'est d'une part d'analyser de quoi est accusé l'élevage en termes de gaz à effet de serre et de voir à quels élevages ça correspond, de voir dans le processus d'élevage quels sont les moments qui effectivement sont les plus néfastes à ce niveau-là, les plus émetteurs de gaz à effet de serre, quelles sont leurs conséquences, mais aussi d'aller au-delà du réchauffement, c'est pour ça que je parle de dérèglement, car il faut aussi examiner les effets de l'élevage sur l'ensemble du climat, des sols, et bien différencier un élevage paysan qui produit des aliments avec les ressources de la ferme en très grande majorité, et un élevage intensif, voire hors sol, qui lui n'est finalement qu'un atelier où on engouffre des produits dans les animaux pour en ressortir des aliments, avec tout ce que ça comporte justement de dégâts collatéraux.
Alors, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas juste parce que l'agriculture paysanne est minoritaire dans le monde qu'elle émet moins de gaz à effet de serre ?
Non. Elle est effectivement non seulement extrêmement minoritaire dans le monde, mais extrêmement minoritaire dans nos pays, dans notre pays. Et donc, elle a des, non seulement elle émet moins de gaz à effet de serre, ou plus exactement elle est responsable de moins de gaz à effet de serre dans sa production, mais en aval et en amont aussi, mais en même temps, elle est responsable de beaucoup moins de dégâts sur l'environnement et les écosystèmes. C'est vrai que là où la critique de l'élevage est juste, c'est sur la croissance exponentielle de la consommation de viande dans le monde, mais qui est une croissance de consommation de viande et de produits animaux, il y a aussi des produits laitiers, mais qui effectivement des produits qui sont de moins en moins naturels, de moins en moins rattachés au sol. Et la conclusion, c'est effectivement, faut sans doute manger moins de viande, mais on a besoin à la fois écologiquement et d'abord écologiquement de l'élevage, et donc moins de viande, mais de la vraie viande. Par contre, voir aussi que les tenants d'une exclusion de la viande aboutissent d'une part à un environnement dégradé, aboutissent d'autre part à des aliments qui sont souvent industriels, donc causent d'autres dérèglements et produits très loin. Et donc le problème n'est pas élevage ou pas élevage, c'est de maintenir un équilibre entre les produits
d'élevage
et l'ensemble des produits
d'intérêt. Très bien, merci Jérôme Gouste. Donc on donne rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs ce dimanche 23 mai à 13h30 sur la foire Biocibel au chapiteau Forum, avec vous donc Jérôme Gouste et votre conférence débat l'élevage paysan et le dérèglement climatique. Merci encore.
On est toujours sur Radio Albitzès et on vous présente le programme des conférences de Biocibel 2021 qui a lieu ce dimanche 23 et lundi 24 mai au parc de la Bousquetaria à Groyer. Avant de passer aux autres intervenants des chapiteaux, forums et conférences, on vous signale qu'il y aura aussi la présence d'une tente étoile où seront présentées des ruches ce dimanche à 13h30 et où l'association Feu Follet proposera une animation « Savez-vous faire du feu sans fumée » à 15h30. Il y aura aussi une présentation de la June Monnaie Libre d'Occitanie, toujours sous cette même tente étoile, à 17h ce dimanche. Et on retourne au programme des conférences des chapiteaux avec Erdotan et Albitzès, avec deux courtes entrevues avec Philippe Piard et Jean-Pierre Berlam.
Philippe Piard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le président de Nature et Progrès Aveyron et vous allez venir ce dimanche à Biocibel pour parler de la campagne intitulée « Secrets toxiques ». En quelques mots, de quoi s'agit-il ?
Alors, c'est une campagne qui a démarré à l'automne, qui s'est basée sur une étude, qui a pris point d'appui exactement sur une étude de Gilles-Éric Serralini, que vous connaissez certainement bien, parce qu'il est toxicologue et qu'il travaille depuis longtemps sur la dénonciation de l'empoisonnement par les pesticides. Vous savez que le Roundup et ces grosses molécules qui sont un petit peu le fonnet de l'industrie, de la chimie, occupent un peu trop les médias. Et quand même, comme ils sont attaqués, l'industrie de la chimie a mis en place d'autres pesticides. Et notamment, ce qui là nous intéresse directement, ce sont des herbicides qu'on va trouver en jardinerie, en grande surface, et qui sont à la portée de tout le monde, et qui sont présentés comme étant sans glyphosate, on se dit super, dedans le principe actif c'est l'acide acétique, c'est l'acide pélargonique, c'est l'acide caprique, des choses tout à fait anodines, l'acide acétique c'est jamais que du vinaigre, l'acide pélargonique c'est tiré du géranium, enfin voilà, on peut se dire mais c'est génial, on a enfin trouvé des herbicides qui sont inoffensifs pour l'utilisateur comme pour l'environnement. Et puis donc, Gilles-Éric Serralini a depuis trop longtemps l'habitude des malversations de l'industrie de la chimie, il a quand même eu un petit doute sur l'honnêteté de ses produits. Et ils ont fait des analyses toutes simples, de spectrographie de masse. Donc on demande à la machine, est-ce qu'il y a ça dedans? Et la machine répond, ben oui, effectivement, il y a des métaux lourds, il y a de l'arsenic, il y a du titane, il y a du plomb. Et est-ce qu'il y a aussi des hydrocarbures? Et la machine, elle dit oui, il y a aussi des hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le fameux benzoapyrène et plein d'autres. Il y en a une vingtaine qui ont été retrouvés sur donc les 14 produits qui ont été analysés. Donc voilà, c'est triste parce que la présence de ces chimies sont d'une très haute toxicité et du coup on se demande comment ces produits-là peuvent arriver sur le marché.
Donc avec une coalition d'autres associations, vous avez lancé cette campagne. Concrètement, comment ça se passe ?
Alors on a donc la première chose qu'on a fait, c'était porter plainte contre X. Donc on a demandé au parquet du pôle santé à Paris d'enquêter parce que c'est les produits qui sont retrouvés dans ces bidons-là ne sont pas marqués sur les étiquettes. On suspecte même qu'ils sont même pas déclarés par le fabricant au moment de sa demande d'autorisation de mise sur le marché. Donc on a porté plainte contre X parce que nous on veut pas désigner un coupable, c'est pas notre rôle, mais on demande au parquet d'enquêter pour savoir qui est responsable ou quels sont les responsables de ça. Donc on a porté plainte contre X pour fraude à l'étiquetage, fraude à la déclaration, mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à l'environnement.
Très bien, Philippe Pierre, voilà. Merci beaucoup. On vous retrouve donc ce dimanche à Biocybelle dans le chapiteau numéro 1.
Jean-Pierre Berland, bonjour.
Bonjour.
Alors, deux siècles de clones, clownerie et clonerie, c'est l'intitulé de la conférence que vous proposerez ce dimanche à 15h30 au parc de la Bousquetterie à Groyer pour la foire Biocybelle au chapiteau Forum. Alors, quand on parle clone, on pense un peu trop vite peut-être à des expériences sur des animaux, mais vous vous penchez d'abord sur un phénomène déjà là, le clonage des variétés de plantes, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que, bon, d'abord, c'est un titre un petit peu provocateur, mais en effet, si vous observez une culture moderne, enfin, chez nous, si vous voulez, vous apercevez d'une chose, c'est que toutes les plantes sont les mêmes. Il n'y en a pas une qui dépasse sa voisine. Et en réalité, il y a même une disposition, si vous voulez, dans les règlements semenciers qui disent que les variétés doivent être homogènes et stables. Homogènes, c'est-à-dire que toutes les plantes doivent être les mêmes, et stables, ça veut dire qu'elles doivent rester les mêmes d'une génération à la suivante. C'est-à-dire qu'on a affaire à des morts vivants, en quelque sorte, si vous voulez. C'est le contraire de la vie. La vie, elle évolue sans arrêt. Ça change. Donc, si vous voulez, c'est à partir de ce constat, je pense qu'il faut raisonner l'agriculture moderne. C'est une agriculture industrielle qui a besoin, en effet, de cette uniformité clonale qu'on dissimule, évidemment, avec le terme de variété. Quand les lois semencières qui datent du début des années 60, si vous voulez, le système UPOV de l'Union pour la protection des obtentions végétales va devenir un système à peu près mondial. De toute façon, c'est en place partout. Et il s'agit bel et bien partout, si vous voulez, de cultiver dans les champs la même plante. Bon, évidemment, pour la biodiversité, c'est catastrophique.
Est-ce que c'est des choses qu'on a adaptées par rapport aux besoins de la mécanisation, des choses comme ça
Ah oui, bien sûr, si vous voulez, ça s'est fait toujours, mais c'était pas, on pouvait faire autrement, hein, je veux dire. Si vous voulez, c'est en effet concomitant avec tout ça, ça commence avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que les paysans, jusqu'à la révolution industrielle, disons en gros jusqu'au début du 19e siècle, fin du 18e, début du 19e, cultivaient des variétés au sens étymologique du terme, le caractère de ce qui est varié, diversité. Et d'ailleurs, il suffit d'aller dans les pays du tiers-monde pour s'apercevoir que dans les champs, les plantes sont toutes différentes les unes des autres. Et c'est au début du 19e siècle qu'on est passé, qu'on a eu l'idée de remplacer les variétés par des copies, en quelque sorte, d'une plante unique. Alors, cette copie, évidemment, est une faite, au départ, une plante qui va être adaptée. Alors, tout ça, ça part d'une chose très simple, c'est que les sélectionneurs en Angleterre, c'est pas par hasard si ça se passe en Angleterre, au début du 19e siècle, c'est-à-dire au moment où la révolution industrielle bat son plein, et les sélectionneurs commencent à s'apercevoir, font le raisonnement suivant, si vous voulez, ils disent, puisque les plantes que nous cultivons, alors il s'agit du blé, de l'orge, de l'avoine, donc des céréales à paille. Puisque ces plantes conservent leur caractère individuel d'une génération à la suivante, nous allons essayer de remplacer la diversité qu'il y a dans le champ par les copies de la meilleure des plantes que nous avons pu réussir à isoler à l'intérieur du champ. Tout le nom technique de l'isolement qu'ils vont utiliser. Et donc, c'est le début, en effet, de ce clonage. Et ça fait maintenant deux siècles qu'on est dedans. Alors, au départ, ça va marcher que pour les céréales à paille. Et après, ça s'est étendu à tout, y compris à des plantes qui ne conservent pas leur caractère individuel d'une génération à la suivante, comme le maïs. Et là, ça a été le point de départ, si vous voulez, d'une véritable mystification absolument extraordinaire qui a consisté à expliquer aux agriculteurs que, le maïs, pour des raisons biologiques qui tiennent à un phénomène qu'on a appelé l'hétérosis, il nécessite d'être sélectionné. On ne peut pas l'améliorer par des méthodes ordinaires, on est obligé de l'améliorer par les méthodes hybrides. Et les méthodes hybrides, c'est exactement la méthode de clonage des céréales à paille. Mais vous voyez bien que si vous faites ces méthodes de clonage, sont des céréales à paille, elles exploitent simplement la variation naturelle qui est présente dans les populations, puisqu'on remplace une variété par un modèle unique de plante extrait de la variété. Donc on utilise les variations naturelles qui sont présentes dans la variété. Bien, pour le maïs, c'est pareil. Donc on a, pour tromper les agriculteurs, on leur a expliqué que non, on utilisait un phénomène biologique mystérieux, génétique, etc., blablabla. Et ça continue encore maintenant, si vous voulez. Personne ne s'est aperçu de la mystification.
Alors de cette mystification et d'autres aspects du clonage, on en parlera donc avec vous, Jean-Pierre Berland. Je rappelle qu'on pourra vous retrouver sur la foire Biocibel 2021 à Groyer ce dimanche à 15h30 au chapiteau Forum avec une conférence intitulée « Deux siècles de clones, clownerie et clonerie », conférence à laquelle chacun et chacune sera invité à participer et réagir sur le principe du forum. Donc merci beaucoup pour votre temps et on se retrouve donc ce week-end.
Voilà, je vous remercie.
On est toujours sur Radio Albitzès et on vous présente le programme des conférences de Biocibel 2021 qui a lieu ces dimanches 23 et lundi 24 mai au parc de la Bousquetarié à Groyer. On continue en musique avec Café comme l'été qui seront sous le chapiteau conférences ce dimanche à partir de 18h45, juste après le groupe C'est nous d'Ange B et Rita Macedo.
Pra que servem as fronteiras se deixam passar o ar? Nunca irão impedir os rios correr no mar. Vous pouvez construire des murs, mais votre cœur serait pas plus pur. Nas minhas veias, as três raças cantam a dor. Regarde mes filles, elles ont la couleur de l'amour. Métissage, nossa força, no mélange, nosso valor. Nossa mãe é a África. Nosso sangue é a música, junto somos mais fortes. A união, nossa bandeira. Zumbi, vem me murmurar os contos. Todas as vozes do mundo animal. Faça vos couleurs, ton dieu, me semble bien pâle. Minha percussão é o coração dos negros. Traz junto com ela a potência dos escravos. Verde e amarelo, le couleur de mon drapeau. Mas ela cache le rouge do sangue derramado. Tu nous regardes et tu as peur. Vamos construir um mundo melhor. Tu peux trembler, nous sommes des millions. Notre musique, plus puissant qu'un bataillon. Sirianos, ciganos, sarauí, índios. Eu canto a união dos povos oprimidos. A minha ponte atravessa continente. E a música não precisa de passaporte. Precisa de passaporte. Não as fronteiras. Que nós podemos ter o direito de caminhar onde queremos, respirar. Porque a música não precisa de passaporte. Não existem fronteiras. Todos nós somos Amazir.
On est toujours sur Radio Albicès et on vous présente le programme des conférences de Biocibel 2021 qui a lieu ce dimanche 23 et lundi 24 mai au parc de la Bousquetariée à Groyer, ça change pas. On continue à parler avec les intervenantes et intervenants. Pour ce lundi à 10h30 le matin, le documentaire Barrage eau sous haute tension au chapiteau forum. Mais d'abord, Célia Isoard de la revue Z au chapiteau conférence.
Célia Isoard, bonjour.
Bonjour.
Alors lundi prochain, on pourra assister à votre conférence intitulée « La ruée minière à l'heure de la transition ». Tout d'abord, qu'est-ce que vous entendez par ruée minière ?
La ruée minière, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bon, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie vient de sortir un rapport, là, tout récent, qui s'appelle « Les métaux critiques de la transition ». Et il montre bien que ce qu'on appelle transition énergétique et numérique, en fait, c'est une nouvelle phase extrêmement violente dans l'extractivisme, c'est-à-dire l'extraction minière dans le monde entier. En général, cette question, elle est complètement invisibilisée. On la voit très très peu. Et derrière les objets qu'on manipule et qui sont apportés comme des solutions aujourd'hui, en fait, il y a des métaux, de plus en plus de métaux, avec des conséquences de plus en plus lourdes sur les milieux naturels, sur les habitats, dans le monde entier. Donc moi je vais faire un panorama de ça en parlant de plusieurs métaux qui sont importants aujourd'hui.
Alors justement c'est ça pour aussi le mettre en lumière à l'heure de la transition qu'on dénomme souvent d'écologique, montrer que ça n'est pas tout à fait écologique.
Oui, mais même aller un peu plus loin et montrer qu'il y a une contradiction majeure. C'est-à-dire on parle de technologie propre et on voit bien, et c'est documenté, que ces technologies-là, elles sont fondées sur un basculement. On passe des énergies fossiles à la mine, un renforcement de l'industrie minière, et que donc, en fait, c'est ce qui est considéré comme et avancé comme étant propre ne l'est pas du tout.
Alors vous, pour vous êtes documenté, vous avez travaillé sur étudier divers sites, divers types d'utilisation.
Alors moi, en tant que journaliste, j'ai fait plusieurs reportages. J'ai pu aller au Maroc, par exemple, enquêter sur une gigantesque mine d'argent. L'argent étant un métal très très important pour l'électronique aujourd'hui, c'est un de ses usages majeurs. Et donc j'ai pu constater, par exemple, dans les régions désertiques marocaines, qu'on assoiffe littéralement des populations entières pour produire ce métal, avec des récits et des situations qui sont vraiment très très importantes, qui sont aussi des histoires de lutte, de gens qui résistent directement à ça. J'ai pu aussi aller en Guyane et au Suriname pour enquêter sur l'industrie aurifère, donc la production d'or.
Eh bien du coup, est-ce que avant de vous retrouver donc lundi prochain à 10h30, vous souhaitez rajouter autre chose sur cette conférence ?
Alors on va aussi évoquer un aspect très très tarné de l'extractivisme, puisque une mine de tungstène est en projet, donc c'est le permis de la fabriquer, c'est pas très loin de Castres. Ça c'est un enjeu très très important, donc on va discuter de cette histoire de faut-il relocaliser les mines et quels impacts est-ce que ça peut avoir.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Célia Isoard.
Merci, bonne journée.
On pense souvent aux barrages comme des objets industriels créés pour fabriquer de l'électricité. On pense moins souvent qu'ils stockent 75% des eaux de surface stockées dans le pays.
Vous avez aimé l'épisode Vente de nos autoroutes ? Vous suivez avec passion le suspense de la privatisation d'Aéroports de Paris ? Vous allez adorer la vente de 150 de nos barrages hydroélectriques ou le dernier rebondissement de notre série hexagonale « La France vend ses joyaux ».
Il y a un peu plus de 400 barrages qui sont gérés par EDF. Ça rapporte entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros à l'État.
Vous avez depuis des années un certain nombre de grands groupes européens privés de l'énergie qui guettent les barrages hydrauliques français en voulant faire main basse sur ce pactole.
Des Total, des Vattenfall, des China Trois Gorges, on va leur donner les robinets de la France.
Les barrages, c'est quand même des ouvrages d'art qui sont magnifiques, mais qui sont excessivement dangereux s'ils sont mal entretenus.
Assurer la sécurité d'un barrage, c'est absolument vital. Il n'y a pas de compromis à faire avec cette sécurité.
Il y a une partie du prix du kilowattheure qui est adossée à la bourse.
Plus 30% d'augmentation sur les tarifs d'électricité, plus 70% sur les tarifs de gaz.
Multiplier les acteurs qui ont chacun une partie, ça rend le système beaucoup plus compliqué et donc plus fragile. Et ça peut augmenter les risques de blackout.
Dans ces cas-là, la France entière est dans le noir.
On se dirige vers une pénurie d'eau généralisée. La France va devoir arbitrer entre les besoins des agriculteurs, des industriels et des touristes. Et c'est à ce moment-là qu'on choisit pour ouvrir les barrages à la concurrence, alerté il y a quelques années Philippe André, porte-parole de Sud Énergie. En cédant à l'injonction de la Commission européenne de privatiser la gestion des barrages hydroélectriques français, le président Emmanuel Macron a suscité une opposition quasi unanime des forces syndicales et politiques. Clair et accessible, un documentaire de Nicolas Hubelmann, raconte l'histoire de cette lutte. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, est-ce que je prononce bien ? C'est Hubelmann, c'est ça ?
Oui, Hubelmann, oui.
Vous êtes l'auteur du documentaire « Barrage, l'eau sous haute tension » avec l'aide de Régie Sud, qui n'a rien à voir avec le syndicat Sud, c'est ça ?
Tout à fait, oui, c'est pas une extension du syndicat, c'est une association de production de films qui travaille en Occitanie et qui est basée à Figeac, dans le Lot.
Et donc vous avez produit ce documentaire, un documentaire sur la mise en concurrence et donc la privatisation des barrages et hydroélectriques en France. Pouvez-vous nous dire quel est le point de départ de ce film et à quel moment vous l'avez envisagé ?
Bien, en fait, des gens de chez EDF, des ingénieurs de chez EDF, avaient organisé déjà une projection d'un film qu'on avait réalisé sur la finance et la création de la monnaie, qui s'appelait La Dette. Et ils avaient diffusé le film, parce que vous savez que chez EDF, c'est un peu particulier, il y a des comités d'entreprise qui font aussi de l'éducation populaire, donc ils diffusent des films, des documentaires sur des sujets très divers. Et ils avaient bien aimé La Dette, ce documentaire donc qui parle de création de monnaie. Et ils nous ont rappelé pour parler de la privatisation des barrages, en espérant qu'on puisse faire un film dessus, quoi.
Sans trop entrer dans les détails, de votre enquête, est-ce que ça représente un danger pour la France, pour la souveraineté énergétique de la France, que cette ouverture à la concurrence ?
Oui, tout à fait. Oui, oui. Bah, en fait, c'est même le thème du film, c'est que les barrages sont en fait une pièce qui paraît comme ça pas très importante dans le puzzle énergétique. Ça produit moins de 10% de la production totale, donc c'est pas énorme. Mais en réalité, c'est ce que les gens découvriront dans le film, les barrages sont un point clé du système. Un point clé parce qu'en fait, sans les barrages, le système peut s'effondrer en blackout très rapidement. Et donc, on peut avoir des pannes généralisées d'électricité si les barrages sont mal gérés. C'est une énergie qui est relativement propre parce qu'elle est effectivement, une fois qu'on a ennoyé une vallée et qu'on a créé des dommages écologiques, après il n'y a pas vraiment de dégagement de CO2, il n'y a pas de pollution par combustion, donc c'est une énergie relativement propre, même très propre, et en plus on peut reprendre dans certains types de barrages, reprendre l'eau qui a été écoulée, qui a donc été turbinée et qui a fourni de l'électricité, la repomper et la remettre dans le barrage. Donc là, du coup, on a un cercle vertueux où on lâche de l'eau, on la repompe et on la relâche. Donc vous voyez que c'est une énergie très intéressante et renouvelable. Oui.
Alors en quoi elle peut intéresser justement le secteur privé ?
L'énergie, c'est un marché comme un autre. Il y a les marchés de l'électricité, comme le marché de l'éducation nationale, comme le marché de la santé, comme tous ces marchés-là qui concernent des biens essentiels. Il y a énormément de clients, on est tous clients d'un fournisseur d'énergie. Donc il y a potentiellement un marché, moi je ne connais pas les chiffres, mais je pense qu'il est en dizaines de milliards. Donc ça intéresse des acteurs. Et pour le moment, l'originalité qu'on a en France, pays un peu du service public quand même, il faut le rappeler, c'est que le marché de l'énergie était géré jusque-là par un seul entrepreneur qui était EDF, une seule entreprise. Et donc, aujourd'hui, il est question de partager le gâteau. Mais alors, partager le gâteau avec le privé, parce que là, pour le moment, EDF était une société sous statut public. Donc effectivement, là, il va être question de démanteler un service public. C'est déjà bien fait, mais ça continue d'être fait, et la Commission européenne fait pression pour que ça soit encore davantage. Mais il est bien question de démanteler un service public et de partager le marché que ce service public gérait entre des acteurs privés qui soient français d'ailleurs ou pas français. Il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas français dans ce marché-là, qui sont en France actuellement, qui ont des bureaux en France pour faire du lobbying et qui attendent que le marché soit ouvert. Mais dedans, il y a évidemment, il n'y a pas que Total et Engie, quoi, qui sont eux français. Mais voilà, on pourrait imaginer que les barrages puissent être gérés par des gens qui sont peut-être à des milliers de kilomètres d'ici. Des Chinois, par exemple, s'intéressent aux barrages français aussi. Donc oui, c'est... C'est inquiétant, ouais.
On laissera les auditeurs et auditrices découvrir ça dans votre documentaire, donc Barrage, l'eau sous haute tension, ouais. Qui sera projeté, donc, je rappelle, lors de la foire Biocybelle sous le chapiteau Forum, ce lundi à 10h30, le matin, donc, suivi d'un débat avec Jean-Damien Navarro, délégué CGT Énergie. On vous remercie, Nicolas Hubelmann.
Ben, moi aussi, je vous remercie, je vous souhaite une bonne projection. Si je peux rajouter quelque chose, je dirais que c'est intéressant de voir ce film parce que non seulement on découvre en fait le rôle des barrages dans le marché énergétique et à quel point il peut être dangereux d'envisager de les vendre à des privés, mais on découvre aussi le projet de l'entreprise EDF. Et le projet de l'entreprise, c'était avant tout un projet social. Donc c'était de fournir de l'énergie. Il faut vous rappeler qu'EDF s'est créé après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était fournir de l'énergie pour reconstruire la France, mais c'était aussi fournir un modèle vertueux d'entreprise. Et donc chez EDF, il y a cet esprit d'éducation populaire, de bien former les salariés, d'avoir des statuts intéressants, avoir des vacances, des congés, etc. Ça n'allait pas du tout de soi dans l'après-guerre. EDF a fait ce pari de développer une entreprise qui aurait souci de ses employés et qui les traiterait le mieux possible. Et c'est un peu la fin de ce modèle-là qu'on est en train de voir avec EDF et la privatisation des différents secteurs de l'entreprise. C'est qu'en fait, ce modèle social est en train d'être démantelé. Donc c'est un démantèlement industriel, mais c'est aussi un démantèlement social qui est fait. Et le démantèlement d'une certaine forme de pensée qui était celle des résistants de l'après-guerre qui ont construit cette entreprise pour que tous les Français puissent avoir de l'énergie et qu'on puisse reconstruire la France dans de bonnes conditions, quoi. Donc voilà, j'invite vraiment les gens à venir voir le film et à découvrir ce qu'est réellement le projet EDF.
Voilà, donc merci Nicolas Hubelmann. Les gens pourront en discuter avec un délégué, donc CGT, justement pour parler de quelle est l'ambiance aujourd'hui chez EDF. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous. À bientôt.
On est toujours sur Radio Albitzès et on vous présente le programme des conférences de Biocybelle 2021 qui a lieu ce dimanche 23 et lundi 24 mai au parc de la Bousquetaria à Groyer. Daniel Chaussière, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur du documentaire Enquête des nouveaux herboristes en coproduction avec France 3 Grand Est, les docs du Nord, Faites un vœu et Pic Nanovo. Vous serez ce lundi à Groyer lors de la foire Biocybelle pour montrer ce documentaire et participer au débat d'après-film. Quel est le point de départ de ce film? Par quel bout avez-vous pris ce sujet?
Oui, alors c'est une longue histoire. En fait, il y a une dizaine d'années, j'avais rencontré un peu par hasard un pharmacien qui a consacré toute sa vie aux plantes. Je l'ai rencontré quand il avait 85 ans et j'ai fait un film avec lui où je l'ai suivi pendant une dizaine d'années. Donc, ça s'appelait Le Professeur Caudron. Et donc, il avait prouvé scientifiquement que les plantes médicinales sont effectivement assez efficaces pour se soigner. Et à partir de là, un peu plus tard, je me suis dit, oui, mais aujourd'hui, en France, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est avec l'usage des plantes médicinales? Et là, je me suis rendu compte que, en fait, il n'y a aucune formation officielle, il n'y a pas de diplôme officiel, et que le diplôme d'herboriste qui existait dans le temps a été supprimé en 1941 sous Pétain. Et donc, les derniers herboristes ont exercé jusque dans les années 80-90, hein, pour les plus âgés, et après, bah, c'était fini, il n'y a plus de diplôme d'herboriste. Mmh. Alors, à côté de ça, on a une demande de plantes médicinales, une demande de compléments alimentaires à base de plantes qui n'arrête pas de se développer, enfin, c'est un marché énorme, et en même temps, il n'y a pas vraiment de spécialistes, si vous voulez. Bien sûr, il y a quelques pharmaciens qui ont pris sur eux de se former, mais autrement, dans les formations, il y a très peu de choses. Et donc, j'ai cherché un petit peu et j'ai rencontré une nouvelle génération d'herboristes, qui se nomment eux-mêmes des paysans herboristes, c'est-à-dire ce sont des gens qui cueillent des plantes sauvages, qui en cultivent aussi d'autres et qui les vendent. Voilà, donc je me suis intéressé à ces paysans herboristes et puis je les ai suivis, certains, dans les Vosges et aussi dans d'autres régions pendant un an, enfin leur vie pendant un an et puis aussi leurs problèmes, puisqu'aujourd'hui, ils sont pas reconnus, ils sont en train d'essayer de se faire reconnaître et c'est pas encore gagné, voilà.
Alors justement, sur la forme du documentaire, comment s'écrit un documentaire tel que celui-ci? Est-ce que vous décidez d'un temps de tournage à l'avance ou est-ce que vous décidez d'un accès ou est-ce que vous laissez tourner la caméra pour ensuite écrire plus au montage?
Non, alors en fait, tout était pensé au départ, puisque bon, quand on fait un film avec des coproducteurs que vous avez cités tout à l'heure, ils me demandent généralement un scénario, ils me demandent un synopsis qu'on ne respecte pas à la lettre, mais enfin bon, on sait déjà au départ à peu près où est-ce qu'on va. Donc j'ai fait un travail de repérage important, j'ai rencontré des gens dans toute la France, une sorte de casting en quelque sorte, hein, donc et j'ai finalement trouvé les personnages qu'il me fallait. À partir de là, je savais que ce que je voulais, et j'ai monté le film sous une forme d'enquête, c'est-à-dire je suis dans le film et j'avance progressivement, j'essaye de comprendre la situation en partant des cueilleurs, des paysans herboristes, en allant jusqu'au Sénat, rencontrer aussi des députés, etc., pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Voilà, donc le tournage a duré un an à peu près, et puis après il y avait une phase de montage, de post-production qui elle-même s'est étendue sur 2-3 mois, puisqu'il y avait une musique originale, donc il y a un compositeur qui a composé à l'image près, etc. Voilà, c'est un travail de très longue haleine qui m'a pris à peu près entre le moment où j'ai décidé de faire le film, c'est-à-dire les premiers repérages, et jusqu'au moment où le film était fini, il y a à peu près 4 années qui se sont écoulées, quoi. Ce qui a un avantage, c'est que ça permet de creuser, d'aller en profondeur, contrairement à un reportage ou à un magazine où on reste toujours un petit peu à la surface des choses.
Alors, sans trop rentrer dans les détails qu'on laissera pour le jour de questionnement, quand même, est-ce qu'on peut résumer en très grandes lignes comment on peut expliquer cet oubli de ce métier et comment on explique aussi le regain d'intérêt pour celui-ci?
Alors, je crois que je vais commencer par la dernière question. Le regain d'intérêt, c'est il y a eu des scandales d'une part pharmaceutiques. Alors attention, je ne suis pas contre les médicaments qu'on vend dans les pharmacies, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Alors, petit à petit, les gens ont découvert quand même qu'il y a des produits naturels, des plantes, etc., qui sont efficaces, puisque bon, leurs parents, leurs grands-parents les utilisaient. Et ça va de pair aussi aujourd'hui avec un besoin de recontact, de contact avec la nature. Alors, puisque plus on vit éloigné de la nature, peut-être plus il y a une sorte de nostalgie de quelque chose qui s'installe. Et dans cette nostalgie, il y a aussi pour certains ce besoin de se rapprocher des plantes, etc. Alors la première question, c'est pourquoi on a perdu ça pendant un moment. Alors il y a une explication, c'est que je vous ai donnée, c'est que le diplôme a été supprimé. Alors pourquoi il était supprimé? Parce qu'il y a eu une pression sans doute de l'industrie pharmaceutique qui voyait là une concurrence peut-être encore à l'époque. Et après il y a eu un intérêt très très fort pour dans les années 1950-60 pour les médicaments, et on a laissé complètement de côté tous les savoirs traditionnels, les connaissances traditionnelles qui étaient considérées souvent comme des remèdes de pauvres, ou alors des remèdes de personnes un peu dépassées, quoi, enfin voilà. Donc il a fallu attendre les années 1990 pour que effectivement il y ait nouveau un regain d'intérêt, alors à travers des écrits, à travers des livres, à travers des tas de choses. Et aujourd'hui, on voit bien que dans toutes les pharmacies ou parapharmacies, même dans les supermarchés, vous avez un rayon avec des plantes, mais souvent ce sont des gélules. Hein, donc, et là, il y a aussi un problème, c'est qu'on ne sait pas toujours d'où ça vient, quoi.
Justement, merci à vous, Daniel Schlosser. On donne rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices ce lundi 24 mai à 13h30 sur la foire Biocibel au chapiteau Forum, avec vous donc et votre documentaire Enquête des nouveaux herboristes. Merci encore et à lundi.
À lundi, merci à vous.
Toujours sur Radio Albitzes, avec la complicité de Claire de Erdotan, on vous présente le programme des conférences de Biocibel 2021. C'est dimanche 23 mai et lundi 24 mai au parc de la Bousquetarié à Groyé. Je l'ai assez dit, nous avons eu tous les conférenciers et conférencières, mais il y a aussi deux temps de forums ouverts autour d'une part de la thématique de la place des femmes dans l'agriculture, ce lundi 24 à 13h30 sous le chapiteau conférence, donc le chapiteau numéro 1, et une tribune plurielle dédiée à l'expression libre, toujours ce lundi 24 à 15h30 sous le chapiteau forum, chapiteau numéro 2, où vous pourrez exposer un sujet qui vous tient à cœur.
Françoise Pillet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous faites partie des personnes qui organisent les conférences à Biocybelle. Déjà, quel est votre rôle ?
Alors, moi, je m'occupe d'une partie des conférences, disons plutôt ce qui a trait. C'est pas vraiment des conférences à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui présente un sujet. Moi, je m'occupe plutôt des tables rondes, des groupes de parole.
Alors, justement, en termes de tables rondes, il va y avoir un forum autour de la question de la place des femmes en agriculture. Comment est née cette idée ?
Cette idée, elle est née d'une certaine pratique de l'agriculture et du fait que moi-même, j'ai eu pas mal de difficultés en tant que femme chef d'exploitation. Et c'est vrai que j'en ai parlé avec beaucoup de femmes et on a trouvé important de témoigner de ces difficultés.
Puisque ce n'est pas vraiment une conférence mais une table ronde, vous l'avez intitulée Forum. Concrètement, oui. Comment va être installé le dispositif ?
Le dispositif, c'est tout simplement des femmes qui vont discuter autour d'une table avec d'autres personnes. Je précise qu'évidemment, les hommes seront les bienvenus à ce débat. Et chacune va pouvoir témoigner des difficultés et aussi des avantages d'être femme dans l'agriculture.
Donc pour cela, vous avez déjà convié plusieurs femmes agricultrices ?
Tout à fait. Alors je précise, parce que c'est important, qu'il s'agit d'un groupe intergénérationnel de femmes paysannes qui représente plusieurs secteurs d'activité agricole. On aura par exemple une viticultrice, on aura deux éleveuses, une maraîchère, une paysanne boulangère, une apicultrice. Et parmi ces femmes, deux sont à la retraite. Alors je précise que la retraite agricole étant ce qu'elle est, ça veut dire qu'il y en a pour au moins une d'entre elles, elle continue à bosser quand même.
Et du coup, les personnes intéressées pour venir participer ou écouter cet échange sont les bienvenues.
Tout à fait, ça peut être des femmes qui ont envie de s'installer en agriculture, des gens, hommes ou femmes, qui ont envie simplement de s'informer sur la situation réelle des femmes en agriculture. C'est ouvert à tout le monde, oui.
Donc le rendez-vous est donné le lundi prochain, donc lundi 24 mai.
Oui. À 13h30, c'est sous le chapiteau 1.
Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur cette invitation ?
On va en parler longuement, évidemment, pendant cette heure-là, mais je trouve que c'est vraiment important de donner aux femmes la place qu'elles méritent dans l'agriculture, puisqu'elles ont toujours été hyper importantes dans le fonctionnement d'une ferme. Longtemps, elles ont été discriminées. Et voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment important de discuter des avancées qu'il y a eu, parce qu'il y en a quand même eu. Hein. Je pense, par exemple, en 99, avec le statut de conjoint collaborateur, qui ont quand même apporté aux femmes une certaine, je dirais pas un certain confort, mais une certaine reconnaissance, en tout cas, doublée en plus d'une protection sociale. Voilà, j'aimerais qu'on parle. J'ai voulu qu'il y ait un groupe intergénérationnel pour que justement on puisse suivre avec plus de précision l'évolution de la situation des femmes. Et je trouve vraiment important, surtout s'il y a des jeunes qui veulent s'installer, de témoigner, d'expliquer les difficultés qu'on a eues, comment les contourner, etc.
Très bien, mais merci pour ces précisions. Et puis donc rendez-vous à Biocybelle lundi prochain.
C'est ça, tout à fait, à 13h30, chapiteau 1. Merci beaucoup.
Merci à Claire de Erdotemp pour ces entrevues partagées. Retrouvez tout le programme de la foire Biocybelle 2021 de ces 23 et 24 mai à Groyer sur le site nptarn.org. Sachez enfin qu'il y aura aussi deux rendez-vous dont on n'a pas parlé dans cette émission sous la tente étoile de la foire. D'abord ce lundi à 15h30 avec l'association ALEM autour de l'habitat réversible et à 17h un atelier débat sur la restauration collective. Buono di pensato e a Leo Leo.